temps d'accéder à la multiplicité, en jouant évidemment sur le terme de multiplicité, tout à fait différente et qui entraîne des conséquences visuelles, des conséquences artistiques, des conséquences politiques, des conséquences sociologiques assez distinctes. Et donc je vais essayer de faire ce contraste, et le meilleur moyen de le faire, c'est de vous présenter des exemples, des cas de ce parcours à travers la ville de Paris qui répond à la question que posait tout à l'heure Sonny, c'est-à-dire sans supposer qu'il existe un tout, il n'y a aucun endroit dont on voit Paris complètement, c'est pour ça que ça s'appelle Paris ville invisible, en dehors de l'allusion au livre bien connu de Calvino, mais de suivre par quel procédé, par quel réseau, cette fois-ci en comprenant le réseau au sens que je vais expliquer tout de suite, on peut parcourir les changements d'échelle qui définissent la ville. Et selon le modèle que vous prenez pour parcourir, vous avez deux définitions très différentes de la multiplicité.
Donc c'est ça, je pense que ça arrive à fermer la lumière.
Donc les deux modèles que je voudrais contraster sont nos deux traditions sociologiques dont une seule est connue. J'essaie de ressusciter la deuxième. La première, c'est évidemment celle de Durkheim, que tout le monde connaît, dans laquelle la ville va trouver place à l'intérieur d'une société, la société étant elle-même définie par un mode sui generis, c'est-à-dire sa propre existence, c'est un gros animal. Le social explique le social, c'est la grande invention en quelque sorte de la notion de société chez Durkheim. La société va être utilisée par Durkheim pour expliquer les aspects étranges d'activités qui ne sont pas elles-mêmes sociales. Par exemple, on dira, dans l'économie, il y a aussi des aspects sociaux et la société peut l'expliquer. Dans la religion, il y a plein d'effets sociaux que la société peut expliquer. Dans la psychologie, il y a plein d'effets sociaux que la notion de société peut expliquer. Donc on va se servir, le social étant lui-même sa propre explication, la société étant sui generis, on va utiliser la notion de société pour expliquer d'autres phénomènes. Et enfin, c'est le point important, je crois, qui nous relie, malgré des variations de ton avec multitude, la totalité, au fond, est toujours déjà là. Parce que la notion de société, que vous preniez n'importe quel livre de Durkheim, on va toujours pouvoir utiliser la notion de société pour expliquer les phénomènes de composition. Autrement dit, la composition elle-même est toujours, en quelque sorte, déjà donnée. Ah, je casse l'écran, c'est très important. Il faut que je puisse...
C'est bien la vidéo là, c'est super.
L'autre tradition, beaucoup moins connue, mais qui est heureusement ressuscitée grâce à la reparution des livres de Gabriel Tarde. Tarde était un juriste, professeur au Collège de France, d'une trentaine d'années, 25 ans plus âgé que Durkheim, qui était donc le grand sociologue avant que Durkheim le fasse disparaître dans une trappe. Et Tarde a une définition totalement différente du social. Le social est défini comme association. Donc c'est aussi la sociologie, mais il l'a défini comme une science des associations. Il a d'autres termes pour le définir, mais ce qui l'ennuierait beaucoup chez Durkheim, c'est l'idée de partir de la société, c'est au contraire la société qui pourrait l'expliquer. Donc il y a un magnifique renversement chez Tarde de ce qu'il faut expliquer, de ce qu'il a expliqué. La société ne sert pas à expliquer, la société est à expliquer. Et le social est toujours défini chez Tarde comme un mouvement d'innovation, c'est-à-dire un phénomène émergent, une surprise concernant le lien social. Et c'est cette innovation qui intéresse particulièrement Tarde. Comme je suis dans un centre de sociologie d'innovation, je suis tombé évidemment tout de suite sur Tarde, puisque sa sociologie est entièrement définie par le terme, la notion d'innovation. C'est la nouveauté et du lien, et c'est pour ça que c'est la nouveauté des associations qui nous permet de nous reconnaître, de reconnaître l'arrivée du social. Et donc la conséquence est très importante. Pour le dire comme Madame Thatcher, there is no society. Il n'y a pas de société, c'est Tarde. La société est précisément ce qu'il faut expliquer, mais il n'y a jamais une société déjà là qui va servir à expliquer d'autres phénomènes. Et le grand élément qui est, je pense, très important pour la théorie de la ville, c'est que ce sont les associations techniques, associations économiques, associations juridiques, il est lui-même juriste, qui vont servir d'explication pour la construction du lien social. Donc, au lieu que la société soit ce qui va donner des explications à des aspects non sociaux de l'existence, comme la psychologie, l'économie, le droit, etc. C'est l'inverse. Le droit va construire des liens sociaux différents de l'économie, différents de la technique, différents de la science, etc. Et, bien sûr, pour l'argument que je vais développer aussi, le dernier point est le plus important, la totalisation est à faire. Autrement dit, il n'y a rien qui soit donné, qui donne la composition sous la forme de la société, évidemment, pas de l'État. Contrairement à Durkheim, Tarr n'était pas impliqué dans la construction de la Troisième République, qu'il aimait un peu, mais pas au point de vouloir construire une théorie sociale entièrement pour soutenir la Troisième République. Il n'était pas, il s'intéressait, comme Garfinkel et quelques autres, à la construction du social lui-même. Je reviendrai sur ce point, parce qu'il a une vision non militante de la théorie du social, qui a des conséquences politiques extrêmement importantes, contrairement à ce qu'on pourrait dire. Et donc, ce sont ces deux grands paradigmes que je voudrais essayer de contraster avec vous, en utilisant comme mode de déplacement des problèmes tout à fait pratiques, puisque je crois qu'on s'entend dans des assemblées aussi diverses que si on propose à la méditation ou à la discussion des exemples qui sont compréhensibles par tout le monde. Donc le problème qui intéresse le paradigme Tarr, qui est un problème de taille, et je pense que toutes les études sur la ville tombent tout de suite sur cette question, quelle est l'échelle? Et quelle est l'échelle, et surtout comment peut-on se passer de ce que je vais appeler plusieurs fois dans cet exposé la notion de zoom, c'est-à-dire l'idée qu'il existe une métrique qui permet de passer du local au global. Et vous reconnaissez là des thèmes qui ont été évidemment développés sous la notion de multitude aussi. C'est un point commun à ces deux arguments. Le problème de taille, je l'illustre par un très bon exemple et très simple, c'est celui du vote d'Alice, qui était mon assistante à l'époque. Je signale que toutes ces photos sont prises par Émilie Hermand, qui a fait le livre avec moi. Et problème extrêmement simple, de ces deux images, quelle est la plus grande ? Celle où Alice est chez elle devant son café en train de lire Le Monde, ou celle, c'était en 97, je crois, les dernières élections, où, c'est ça ?
Oui, oui,
oui. Des temps très éloignés où la gauche faisait un assez joli camembert, qui est sur son écran de télévision le soir. C'est-à-dire, quelle est de ces deux illustrations celle que l'on peut placer dans une métrique du petit ou du grand ? Vous voyez qu'on ne peut tout de suite pas placer la première en disant c'est une interaction locale, puisque Le Monde tire à 500 000 exemplaires, et que c'est un grand thème de Tarr. D'ailleurs, Tarr a inventé la sociologie des médias. Quand tout le monde, chacun de chez soi, lit son journal, ils sont beaucoup plus cohérents, en quelque sorte, formant une foule, ou plutôt un peuple, justement, beaucoup plus rassemblé que s'ils étaient dehors tous ensemble. Donc, le fait de lire le journal n'est pas, évidemment, une interaction locale. Mais inversement, si vous regardez l'image de droite, elle a la taille de l'écran de télévision. Elle est un scamander qui répond et qui résume la totalité du vote français ce jour-là. Néanmoins, elle est petite. Ou du moins, peut-être qu'il faudrait arriver à ne pas la placer dans une série d'échelles. Et si vous regardez maintenant comment on peut aller du micro au macro sans changer de véhicule, ou sans changer, sans débrayer, en quelque sorte, on peut multiplier les étapes, et tout l'opération que je vais vous proposer consiste à circuler du micro au macro sans changer le véhicule, donc sans admettre la notion d'échelle toute faite, en donnant le dimensionnement aux acteurs et non pas aux géographes ou aux sociologues. Je signale que cette élection particulière est une fraude manifeste de M. Tibéri en particulier, c'est assez amusant, je ne sais pas si vous rappelez. Elle est dans son isoloir, il y a toute une histoire de l'isoloir. Vous connaissez toute cette histoire très intéressante, il faut qu'on voit les pieds des gens pour être sûr qu'ils ne sont pas d'eux, en même temps il faut que ça soit fermé, hein. Bon, il y a toute une histoire évidemment de ces techniques de vote. Il y a le vote avec, contrairement à l'isoloir, la boîte est maintenant transparente, elle signe, donc on attache un nom à une personne, et c'est déjà bien intéressant, elle se transforme déjà considérablement, elle devient, ayant signé avec son nom, elle devient juste une unité à l'intérieur de la boîte, et c'est ce qui va se passer au moment où les scrutateurs vont commencer à dépouiller les votes. C'est transmis ensuite, vous discutez à la télévision. Je signale à intervenir sur cette image tout à l'heure. La télévision n'est pas un endroit global, c'est un endroit local, ô combien local, parfois provincial, on peut même dire. Et lorsqu'elle voit à la télévision ce camembert, c'est la pointe d'un système de calcul avec téléphone et fax dans chaque bureau de vote au ministère de l'Intérieur, sommée, mise en boîte et mise ensuite en scène par les designers digitaux de cette télévision, en l'occurrence TF1. La question, c'est de ne pas supposer que nous avons là du grand et que nous avons là, à première image, du petit. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut naviguer de l'interaction, ce qu'on appelle l'interaction, mais qui n'est pas une interaction puisqu'elle lit le monde, qui tire à 400 000 exemplaires, jusqu'à la situation de sommation par l'opération de vote, sans varier de véhicule. Et vous voyez que si vous dites, je varie de véhicule parce que visiblement ici c'est du grand, et tout à l'heure c'était du petit, vous exprimez une multiplicité complètement différente que si vous ne changez pas de véhicule. Et c'est évidemment la révolution, parce que tard l'a fait depuis un siècle, mais le grand contraste entre la sociologie de Durkheim et la sociologie de Tarbes. Donc on peut nier la multiplicité de deux façons tout à fait différentes, en disant la première image, c'est évidemment une situation d'interaction, et la dernière, c'est une situation de contexte social. Donc la dernière image à la télé, c'était du contexte, et la première image, c'est de l'interaction. Et la multiplicité va se trouver niée. La deuxième façon, c'est de dire, au contexte, on sait bien que quand on parle du contexte social, on est toujours en train de parler de choses trop vastes et trop abstraites, et il faut revenir au terrain et à l'interaction pour comprendre de quoi il s'agit. Vous remarquerez d'ailleurs que les gens qui parlent de contexte social font souvent ça avec leurs mains. Ils font toujours ce mouvement, c'est au fond toujours la taille du camembert de la télévision, c'est-à-dire finalement le grand, ça a toujours c'est ce que j'appelle l'argument de la citrouille, le grand a toujours la taille à peu près d'une citrouille. Et on peut évidemment trouver un compromis raisonnable. Bourdieu est célèbre pour avoir trouvé un compromis raisonnable, dialectique, entre à la fois les structures et l'interaction. Ou alors, c'est la deuxième solution, c'est celle de Tarbes, ignorer complètement la question. En disant, non, je ne vais pas du tout essayer de trouver un compromis raisonnable entre le contexte, qui est très grand, mais en fait, il n'est pas très grand, puisqu'il a cette taille, et l'interaction, je vais essayer de passer de l'un à l'autre sans changer de véhicule. Et vous voyez tout de suite le changement de topographie, ça veut dire qu'on va s'intéresser à ce qui se déplace. En l'occurrence, à la procédure de vote, à la façon de mettre son bulletin dans l'urne, à la façon dont c'est compté, etc. On va s'intéresser à des choses très différentes. Et donc on va faire sortir des différences, on va exprimer une multiplicité complètement invisible dans l'autre cas. Si vous supposez qu'il y a du grand et du petit et du milieu, du méso au milieu, les techniques par lesquelles vous obtenez le changement de dimension disparaissent. Puisque le grand est déjà là, le grand est toujours déjà donné, et le petit se situera comme une matrioshka à l'intérieur des poupées, de la plus grande, la N-1 ou N+1 poupée russe. Dès que vous vous posez la question du dimensionnement, par quel vecteur le dimensionnement est obtenu, vous changez complètement de topographie. Et vous êtes obligé de vous intéresser à des multiplicités qui étaient invisibles dans d'autres cas. Et si on veut dégager les multitudes, plutôt les multiplicités dans le terme de cet exposé, vous voyez que la question n'est pas simplement oiseuse, c'est une question absolument cruciale. Si le grand est déjà donné, si l'échelle est déjà donnée, les techniques de changement d'échelle disparaissent. Si le grand est à produire par un dimensionnement qui lui-même circule, il faut s'intéresser à tous ces petits détails. C'est pour ça que je me permets de vous montrer des images, puisque c'est précisément ces détails-là à quoi tient la vérification et la réalisation de la multitude. Donc de la multiplicité. Donc il y a une vraie différence. Que je vais illustrer par quelques autres exemples. Par exemple, où se trouve, et le livre multiplie les exemples les plus bizarres, les plus obsessionnellement myopes qui soient possibles, la météo. Où est la météo de l'Île-de-France? Eh bien, elle se trouve dans un bureau près du parc Montsouris, un bureau aveugle où on ne voit pas le temps. Parce que c'est la particularité de la météo, si vous allez voir les météorologistes, ils ne regardent pas dehors. Vous regardez dehors pour savoir s'il va faire beau ou pas. Non, en fait, vous regardez pas dehors, vous regardez sur Météo Île-de-France sur Google, ou bien vous allez regarder la télé, vous regardez la télé, vous regardez pas dehors. Maintenant, plus personne ne regarde dehors pour regarder ce qu'il va faire. Vous regardez quoi? Eh bien, vous regardez quelque chose qui lui-même a, comme le système vote d'Alice, une très intéressante topologie, puisque voilà ce qu'on voit à la télé si vous regardez votre télé. Mais si vous allez à Parc Montsouris, boulevard Rat, excusez-moi, Parc Montsouris, c'est juste là où il y a des instruments. Voilà, Parc Montsouris. C'est ça le temps de Paris. D'ailleurs, je vous signale, c'est plus l'ancien centre de. Les plus anciennes données météorologiques françaises sont dans ce petit parc, et c'est à l'origine pas des instruments beaucoup plus compliqués que ça. C'est de l'eau, c'est des trucs vraiment humbles. Ils sont humbles, mais évidemment, ce sont des instruments. Et ils commencent à sonner quelque chose qui va devenir ensuite le temps de Paris, dans l'ordinateur, cette fois-ci avec des instruments un réseau beaucoup plus étendu, qui est le réseau des satellites, qui va être transformé.